Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Est-ce que vous éprouvez la solennité de la déclaration? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Est-ce que nous ressentons la solennité de cette injonction à écouter? Parce que comme on a l'habitude d'entendre ce texte, je crains que nous n'en percevions plus beaucoup le caractère solennel. Pourtant, c'est la voix du Père qui se fait directement entendre. Cela n'arrive que deux fois dans l'Évangile selon saint Matthieu, à l'épisode du baptême de Jésus et ici à la Transfiguration. La rareté du phénomène doit attirer notre attention. C'est un peu comme si on nous disait « Attention, prends garde, tu vas entendre la voix du Père. Tu ne l'entendras que deux fois dans ta vie, à ton baptême et aujourd'hui. Retiens bien ce qui te sera dit, cela ne se reproduira pas. » Je crois que nous serions plus attentifs. Je crois que nous prêterions l'oreille. Que va-t-il dire? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une qualité d'écoute que nous sommes appelés à offrir à Dieu. Et je voudrais d'ailleurs, pour essayer d'exprimer la qualité d'écoute que nous avons à offrir à Dieu, peut-être nous aider à faire mémoire d'une qualité d'écoute que nous avons peut-être vue, justement, chez les enfants quand on leur raconte une histoire. Vous savez, les enfants d'à peu près 7-8 ans sont en train de leur raconter une histoire, leur raconter un conte de fées, et vous les voyez, ils ont une façon d'ouvrir les yeux un peu particulière. Alors parfois, il y a même la bouche qui s'ouvre un peu, et ils sont totalement dans l'histoire. Et leur intelligence, leur imagination, leur cœur est tout ouvert. On leur raconte l'histoire d'un chevalier en armure, ils voient le chevalier en armure. Ils combattent un monstre, ils entendent le bruit de l'épée contre les écailles du monstre. Et il y avait une qualité d'écoute là, et nous nous rendons compte que la qualité d'écoute que nous accordons à Dieu est rarement de cet acabit, est rarement à ce niveau-là. On est distrait, on pense un peu à autre chose, on écoute à demi. Et en même temps, on se dit, mais d'ailleurs, une écoute naturelle, est-ce que ce serait suffisant pour écouter le Seigneur? Parce que quand il nous parle des choses justement du ciel, des choses de Dieu, des choses surnaturelles, alors est-ce que ça vaut la peine de se fatiguer, puisque les choses surnaturelles, ça nous dépasse, non? Eh bien, c'est pour cela que Dieu a préparé pour nous un don tout particulier pour nous permettre d'entrer dans cette écoute particulière. Dieu nous a préparé un don tout particulier pour entrer dans cette écoute profonde. Comment est-ce qu'on appelle ce don? C'est un don de l'Esprit-Saint. Ce don s'appelle le don de la crainte de Dieu. Le don de la crainte de Dieu qui vient de l'Esprit-Saint. Alors, il faut écarter tout de suite une confusion. Je veux dire, le don de la crainte de Dieu, mais j'ai pas du tout envie de le demander, moi j'ai pas envie d'avoir peur. Alors ça, vous avez raison, parce que la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur. Ouais, la peur, c'est ce que nous pouvons éprouver, justement, lorsque nous sommes face à un danger. La peur naît de la menace que représente autrui. Alors, c'est la menace du chat pour la souris. Oui, la souris a peur. C'est la menace du loup pour l'agneau. Oui, l'agneau a peur. Mais c'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la capacité à apprécier la grandeur de la distance qui nous sépare de Dieu. Et vous voyez, le terme apprécier, il faut le prendre dans ses deux sens en français. Apprécier une distance, on peut dire c'est apprécier, calculer la distance. Entre vous et moi, là, les premiers rangs, il y a peut-être 5 mètres. Voilà, je calcule, j'apprécie la distance. Mais vous savez que le terme « apprécier », ça signifie aussi « trouver de la saveur », goûter. J'ai apprécié cet excellent poulet frites que tu as préparé. J'ai goûté à la chose. La crainte de Dieu, elle nous permet justement d'entrer dans ces dimensions en ayant conscience de la distance, je vais dire des mesures qui nous séparent, de goûter du coup l'émerveillement. Reprenons encore quelques exemples naturels pour nous permettre de savoir qu'est-ce que c'est du coup goûter cette distance. Peut-être que vous avez déjà vu, ou vous êtes même déjà allé au Grand Canyon en Arizona, et vous étiez au bord et vous avez vu cette profondeur de la falaise, et vous avez été émerveillé, saisi par cette grandeur. Peut-être que vous êtes allé dans un spectacle de cirque, vous avez vu des trapézistes. Et vous savez que ce qui fait l'intérêt du spectacle, c'est que s'ils étaient simplement au sol en faisant des galipettes, bon d'accord, c'est gentil, mais ça va pas plus loin. Le trapéziste, c'est parce que justement, ils sont vraiment hauts. On perçoit la dangerosité de leur exercice. Et il y a un émerveillement qui vient justement de ces hauteurs qu'ils atteignent. Vous voyez, la capacité à percevoir la distance, elle va être la source, elle va permettre la condition de possibilité d'un émerveillement. Et cet émerveillement, justement, va ouvrir notre capacité à écouter. Vous savez bien qu'on n'écoute pas de la même façon un étranger, ou son parent, ou sa fiancée. Il y a une qualité d'écoute qui n'est pas la même. Eh bien, la qualité d'écoute de Dieu, elle vient, grâce à ce don de la crainte de Dieu, de percevoir qui il est vraiment. Voilà la distance qu'il y a entre nous, et pourtant ce Dieu-là s'est penché sur nous. Vous voyez, de la même façon que la hauteur d'une falaise en soi, elle n'est pas dangereuse, comme un loup agressif. Ainsi, le don de crainte de Dieu me permet de saisir la grandeur de Dieu. Prenons, j'allais dire, quelques éléments. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui qui s'adresse à moi, c'est celui qui a créé tous les astres et tout l'univers. Rappelez-vous peut-être quand vous avez observé une nuit d'été, le ciel étoilé. Vous avez regardé les étoiles et tout d'un coup vous vous êtes dit, voilà que je suis moi, là, petit être humain, et je perçois ces étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière. Et je perçois une immensité. Il m'est donné de le voir et de le goûter. C'est ce Dieu qui a fait tout cela, qui s'adresse à moi. Ou peut-être une autre approche encore. Quel âge ai-je? J'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans, aurais-je 100 ans? Il est le Dieu qui était déjà là avant la création du monde, il y a plus de 13 milliards d'années. Donc moi j'ai peut-être 100 ans. Mais il était déjà là il y a 13 fois 1000 fois 1000 fois 1000 années, plus que ça encore. Je prends quelque part la mesure de celui qui s'adresse à moi. Ou encore un aspect, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a parlé à Moïse, le Dieu du roi David. Il est le Dieu qui a accompagné les apôtres sur la montagne. Il est ce Dieu que priaient mes grands-parents, que priaient mes parents. Il est ce Dieu que je prie, c'est lui qui s'adresse à moi. C'est ce Dieu de toutes ces lignées, c'est le même qui les a accompagnés, qui s'adresse à moi aujourd'hui. Alors percevant à la fois sa grandeur infinie et ma petitesse, je peux m'en émerveiller sans verser dans la désinvolture. Ce don de crainte de Dieu nous dispose, nous ouvre à l'émerveillement et au désir d'en savoir plus. J'allais dire, rappelez-vous quand vous lisiez un bon livre et que vous tourniez un peu fiévreusement la page pour savoir ce qui se passe après. Ce rapport avec Dieu, s'il nous est donné, j'allais dire, dans le monde naturel de pouvoir le connaître, nous pouvons aussi le connaître avec Dieu. Allez regarder le psaume 62-63 au verset 2. Vous avez cette expression étonnante. Mon âme a soif du Dieu vivant. Après toi languit ma chair. Mon âme a soif du Dieu vivant. Après toi languit ma chair. Alors que bien souvent, on me parle de faire les choses de Dieu. Ouais, bon, bah, je vais les faire, comme ça j'aurai coché la case. J'allais dire, d'une certaine manière, quelle tristesse d'en rester à ce niveau-là, alors que Dieu veut nous offrir « Mon âme a soif du Dieu vivant, après toi Seigneur, languis ma chair. » Pourquoi est-ce que nous en restons à ce niveau, j'allais dire, un peu médiocre, un peu aride? Parce que nous ne prenons pas le temps de demander ce don de la crainte de Dieu. Et nous avons l'impression que le Seigneur est juste une petite brise qui passe et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à découvrir, rien d'autre à goûter. Mon âme a soif du Dieu vivant. Après toi, languit ma chair. nous devons demander ce don de la crainte de Dieu. Mais parfois, nous nous sommes installés, du coup, dans cette disposition un peu indifférente vis-à-vis de Dieu, au point que la désinvolture a pu s'installer dans notre cœur. Qu'est-ce que c'est la désinvolture ? La désinvolture, c'est une caricature de la familiarité. La familiarité, c'est ce que je peux vivre au sein d'une famille, en respectant chacun. La désinvolture, c'est un manque de respect. « Oh ben, je n'en ai pas grand-chose à faire, peu me chaud, peu m'importe. Je suis préoccupé par rien, je suis impressionné par rien, je ne suis émerveillé par rien, je n'en ai cure. Je ne prête pas vraiment attention, je ne me donne pas la peine. Ah oui, tu m'avais prêté ton livre, ah oui, il a pris la pluie, je l'ai laissé dans le jardin, il pleuvait tellement, j'ai pas eu le courage de ressortir. La tache s'est incrustée dans la nappe, ah oui, je ne l'ai pas portée au lavage tout de suite, hein, c'était loin et fatigant. » On en a le cœur blasé, la volonté assoupie et nonchalante. On peut être désinvolte face à Dieu. On dit sa prière pour s'en débarrasser. Notre esprit est loin de ce que disent nos lèvres. Il y a quelques signes qui peuvent nous aider à repérer comment la désinvolture s'est installée dans notre vie. Il y a des signes tout simples. Un premier signe tout simple, c'est la façon dont nous faisons notre signe de croix. Et parfois, notre signe de croix, il est fait à la façon d'un chasse-mouche, de façon un peu automatique, mécanique. Alors de fait, les mouches ne se poseront pas. Mais est-ce que j'ai conscience que ce que je suis en train de poser sur moi est plus précieux, j'allais dire, qu'un artiste qui vient revêtir la statue qu'il a sculptée d'une feuille d'or ? Il le ferait avec grande attention parce que la feuille d'or, justement, c'est tellement léger et précieux. Est-ce que j'ai conscience, en faisant mon signe de croix, que ce que je mets est bien plus précieux qu'une feuille d'or. C'est le nom de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est le signe de sa vie donnée pour moi que je revais à ce moment-là, comme un vêtement précieux. Comment est-ce que je fais mon signe de croix ? Souvenez-vous, peut-être, vous avez entendu cela si vous êtes allé à Lourdes, que les foules étaient frappées par la façon dont sainte Bernadette faisait son signe de croix, ce signe de croix que lui avait réappris la Vierge Marie. Les gens, la voyant, se disaient « Il se passe là quelque chose de sacré. Il se passe là quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que je ne vois pas qui elle voit, mais en la voyant faire son signe de croix, je comprends que quelque chose est en train de se passer. On n'est plus dans l'ordre de l'ordinaire. » Un deuxième signe qui nous permet de voir que nous avons à demander ce don de la crainte de Dieu, c'est parfois la façon dont nous approchons de la Sainte Communion. Parfois, on se demande, quand on regarde de l'extérieur, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va saisir simplement un bout de pain azyme dans une assiette avec les doigts en pince à sucre ? Ou bien on vient manifester que celui que je reçois, c'est le Seigneur, le roi des rois, celui qui a été crucifié et qui est ressuscité, et que je reçois du coup dans mes mains en faisant un trône avec mes mains, un vrai trône. Que c'est du coup celui que je reçois en ouvrant la bouche pour le recevoir au plus précieux. Est-ce que c'est justement celui, quand le prêtre me le présente, le corps du Christ ? Est-ce que je vais prendre la peine de répondre audiblement Amen, avant de le recevoir, que ce soit dans mes mains ou dans ma bouche, le corps du Christ, Amen, je crois, j'y adhère, je le reconnais, c'est lui. Ce sont des signes tout simples, mais qui nous permettent peut-être de nous rendre compte de ce qui s'est installé dans notre cœur et qui fait écran à cette capacité de pouvoir dire « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Ma chair languit après toi. Rendez-vous compte de qu'ont éprouvé les apôtres sur le mont de la Transfiguration. Vous avez entendu Pierre, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et s'il l'éprouve, c'est pour nous dire que nous pouvons l'éprouver aussi. Il est bon que nous soyons ici, au point qu'il voudrait prolonger ce moment. Ah, on va dresser trois tentes, comme ça on va pouvoir rester. Une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Que ce que je goûte, Seigneur, je puisse le prolonger. Ils ont fait cette expérience de la crainte de Dieu profonde qui leur a permis de s'émerveiller de ce qui était en train de se produire devant eux. Et si ça nous est révélé, ça nous est révélé pour que nous puissions le vivre, nous aussi. Esprit Saint de Dieu, donateur des sept dons, vivifie en nous aujourd'hui tout particulièrement le don de crainte de Dieu, que nous puissions saisir la grandeur de celui qui nous appelle, que nous puissions apprendre à l'écouter pleinement, sans désinvolture, de toute notre âme, de toute notre chair, pour nous émerveiller de la vocation qu'il nous accorde. Saints apôtres Pierre, Jacques et Jean, qui avaient fait à la transfiguration l'expérience de l'émerveillement né du don de la crainte de Dieu, intercédez pour nous. Que ce deuxième dimanche de carême marque pour nous un tournant dans notre façon d'écouter le Seigneur. Amen.